Voilà, bonjour à chacun. C'est une grande joie pour moi d'ouvrir avec vous un psaume, le psaume 27, que vous connaissez bien. Et j'ai pas de beaucoup de mots à dire, si ce n'est que vous êtes nombreux ici à qui le psaume 27 un jour a parlé à un moment de votre vie. Peut-être simplement de vous rappeler ce moment-là où ce psaume vous a été lu ou bien dans un culte personnel. Alors pour ceux qui ont peut-être plus d'années d'ancienneté dans la foi, c'est dans la version seconde que vous l'avez lu. Peut-être on va le lire dans trois versions différentes ce matin. On va l'afficher une première fois dans un affichage classique en version seconde, si c'est possible. J'aimerais que vous lisiez avec moi, si même si vous avez une petite voix dans le comme un murmure dans votre tête. C'est le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Wow. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera à l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Merci notre Dieu pour ce psaume que tu as permis qu'il soit écrit dans ce livre. Je crois qu'il est inspiré de Dieu et qu'il est pain quotidien pour nous ce matin. Seigneur, que nous puissions vraiment recevoir de toi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est une chose que je désire ardemment, ardemment. Je suis impressionné parce que David, s'il y a quelqu'un qui a vécu des combats, des difficultés, des épreuves, c'est bien David, hein. Et il a une foi extraordinaire lorsqu'il commence son psaume. Et c'est un petit peu comme le psaume 23. Pour certains, vous connaissez l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comme ça, déjà, c'est dit, on a la conclusion avant de commencer. Et c'est pareil, ce psaume, il commence en disant, oui, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerais-je? Ça n'empêche pas que dès le verset 2, il y a des problèmes quand même. Alors, on va regarder les versets 2 et 3. 2 et 3, est-ce que c'est possible d'afficher? Voilà, on continue. Regardez, non, la version PowerPoint, s'il vous plaît. Première partie, mon combat, ma bataille, ma bataille. Que des méchants s'avancent contre moi. Mes ennemis m'entourent. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Et tombent. Regardez le verset 3, à la suite. Qu'une armée vienne m'assiéger, c'est dans la version Semeur, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Et vous voyez tout ce psaume, c'est en creusant que vous voyez ce genre de choses. Vous pouvez pas, si vous le lisez comme ça, vous dites waouh, c'est un beau psaume. Mais j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus en profondeur ce matin et regarder pourquoi je dis c'est le combat de David, c'est les combats, la bataille de David. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs degrés. Il y a un seul type de combat. Tout ça, c'est que des méchants, des personnes qui sont en face de lui, qui essayent de détruire sa vie. Donc, mais il y a plusieurs degrés. Et regardez, il y a des nuances dedans. Il commence au verset 2. Au verset 2, il est dit que des méchants s'avancent contre moi voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et qui tombent. Là, il est en train de parler lorsque tu as un problème dans ton travail, quand tu as un problème dans ton foyer, que tu as un problème par rapport à des ennemis qui viendraient en face, peut-être une maladie, une souffrance. C'est comme si Dieu retourne la flèche contre celui qui l'a envoyé. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Et David, peut-être, a plus d'expérience que moi. Il a plus d'expérience que toi encore dans la vie avec tous ces combats. Il dit, c'est incroyable, mais j'ai remarqué une chose. C'est que ceux qui ont voulu me faire du mal se sont fait avoir. Et c'est pour ça qu'il commence quand il disait, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? Parce qu'il dit, en gros, je ne sais pas, c'était bien avant que Hollywood ait inventé les pouvoirs laser et tout ça. C'était la capacité de retourner la balle à l'envoyeur. Et on commence avec les ennemis extérieurs. Mais regardez, après, il est dit qu'une armée, verset 3, qu'une armée vienne m'assiéger. Moi, je ne sais pas comment vous vous placez, mais moi, si j'ai une personne en face de moi, je peux m'en sortir. Mais si jamais il y a une armée, et le mot c'est qui campe, on a vu dans la version seconde, là ici c'est qui assiège. Ouh. Ouh. Pour nous ça ne veut plus dire grand chose, mais à l'époque ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'ennemi est déjà arrivé dans la proximité. Vous savez, il y a des ennemis, c'est des ennemis passagers. Quand vous avez, je ne sais pas moi, quand votre voiture a un accident, elle ne sera pas tous les jours de votre vie accidentée, votre voiture. C'est juste, c'est arrivé une fois, il y a une voiture qui l'a tamponné, vous avez perdu votre pare-choc, etc. Vous êtes effondré, vous êtes stressé, vous remplissez le contrat amiable avec la main qui tremble, vous êtes toute votre journée, vous allez y penser, vous êtes retourné par ça. Mais ça, voilà, c'est venu une fois, vous allez l'amener au garage, ça va, vous allez vous en sortir. Mais des fois, là, je parle deuxième niveau, là, il peut une armée qui vient et qui m'assiège. Un siège, c'est long, ça dure des mois, ça dure des années. C'est quelque chose d'insidieux parce que c'est directement au contact avec vous. Il y avait, au temps de David, il y avait des incursions. Les incursions, c'était le verset 2, un méchant qui passe. Pour certains, dans votre vie, vous avez des incursions, ça passe et ça s'en va. Mais il y a aussi, au verset 3, la possibilité dans votre bataille, dans votre combat, que cette bataille vous colle à la peau. Et il dit qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Parce qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, quand la maladie dure, quand le problème s'aggrave, les années passent, on peut finir par perdre notre sécurité. Et David dit, waouh, même si ça me colle à la peau, même si ça m'assiège, même si c'est venu dans mon pays, pour assiéger une ville, il faut que l'ennemi soit arrivé chez vous. Et je me dis que peut-être le combat le plus important qu'ont certains ce matin, c'est le combat qui est chez vous. Chez vous. Chez vous dans votre famille, ou bien chez vous dans votre tête, dans ce qui est le plus interne, dans votre couple. Et le diable ne fait pas seulement que passer des fois dans les vies, il essaye de se coller à vous. C'est pour ça que certains chrétiens disent, mais c'est pas possible, je suis possédé ou quoi? Parce que le combat est tellement rapproché. L'ennemi est tellement proche de votre ville que vous avez du mal à comprendre qu'il n'est pas en vous, mais il est tout proche. Quand Jérusalem a été assiégée, c'est-à-dire que vous êtes sur le rempart et vous voyez l'ennemi, il est juste de l'autre côté. Il est à 10 mètres. Vous pouvez sentir leurs chevaux respirer. Vous pouvez les entendre forger les épées. Vous imaginez ce que c'est lorsque vous êtes assiégé, que vous n'avez plus rien de quoi à manger, vous voyez les autres qui ont le temps de se nourrir, vous entendez le bruit des marmites, vous entendez toutes ces bonnes choses qu'il y a, et vous êtes de l'autre côté. Voilà, il y a une proximité de l'ennemi où vous le sentez de près, et vous pouvez des fois vous tromper parce que il n'est pas dans la ville. Et David, il dit, non, il est quand même, il se campe autour de moi, il m'assiège, mais il n'est pas en moi. Attention, ne vous trompez jamais, parce que sinon vous allez vous autodétruire. Vous imaginez si jamais l'ennemi est dans la ville, vous ne savez plus qui est votre ami, qui est votre ennemi, vous commencez à tirer sur n'importe quoi. Et il y a des chrétiens qui s'autodétruisent parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'ennemi est à l'extérieur, c'est vrai qu'il est prêt. Mais ils commencent à se faire la guerre contre eux-mêmes à l'intérieur de leur propre ville. Méfiez-vous de votre cerveau des fois, hein. Vous finissez par vous attaquer vous-même. Vous commencez à vous dire, mais je suis nul. je suis pas une bonne chrétienne, je suis pas une bonne épouse, je suis pas un bon mari, je suis pas... et tu commences à te faire la guerre contre toi-même et tu dis, je suis chrétienne, d'un point de vue chrétien, je suis à côté de la plaque, je suis pas bien, etc. Tu as déjà assez avec tes ennemis passagers, les ennemis qui t'assiègent, et troisièmement, que l'on me déclare la guerre. Qui c'est qui a déclaré la guerre? On. Ça, c'est le plus pénible. C'est les ennemis qui ne sont pas identifiables. Là, on ne sait pas qui vient. C'est on me déclare la guerre. Je voudrais vous donner une anecdote pour vous illustrer ça. Moi, j'ai mon frère Florent, lorsqu'il était en train après avoir réussi son CAPES à l'écrit, vous savez, à l'oral, vous êtes mis en année de stage. Et en année de stage, vous êtes observé. Et Dieu avait permis qu'il soit délocalisé en plein milieu de la Mayenne, très loin de sa famille. C'était très loin de nous, c'était très loin de tout, dans un petit collège de campagne. Et là, il avait un tuteur, quelqu'un qui devait le conseiller, l'aider d'un point de vue pédagogique pour sa première année. Et qui avait aussi la responsabilité de le noter. D'accord? Donc, c'est fois un ami, mais c'est un ami qui vous évalue. Donc, bon. Et mon frère est quelqu'un de très consciencieux, il préparait extrêmement bien ses cours. Il avait du succès auprès de ses élèves qui aimaient l'avoir comme professeur. Et ça se passait tellement bien que le tuteur pédagogique, celui qui était censé le conseiller et l'évaluer, a fini par tomber jaloux de ce jeune qui réussissait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'être un ami, c'est devenu progressivement un ennemi. Mais vous voyez, comme c'était comme quelqu'un d'assez méchant en fait. Parce que le jour où, à chaque fois que le cours se terminait, il essayait de dire le plus de mal possible sur ce qu'il avait, parce qu'il assistait en fait, hein, ce tuteur, il assistait au fond de la salle, et il était très très pénible à la fin du cours en disant oui, ça c'était pas bien, ça c'était pas clair. Ça, ceci. Donc du coup, mon frère se remettait en question beaucoup. Jusqu'au jour où il a vu que les propres cours et les propres PowerPoint que mon frère avait fait, ce tuteur avait tout utilisé le jour où lui-même avait été inspecté. C'est en fait, il se servait des cours du jeune qui était bien fait, et lui qui travaillait pas ses cours les utilisait quand il devait faire noter lui-même. Vous voyez qu'il y a des gens tordus quand même. Hein. Et alors qu'il devait remettre son rapport, sans le dire à mon frère, il a mis un rapport négatif en disant je demande le redoublement de ce stagiaire pour incompétence. Alors qu'il avait volé les cours. Jusque-là, vous dites, et je rappelle, j'étais avec mon petit frère au téléphone, il dit, mais Yvan, là, ça commence à être fort, là. Le gars, il me colle à la peau. Vous voyez, c'était un méchant, après, c'est devenu une armée à lui tout seul. Et après, il y a le on me déclare la guerre. Parce qu'est-ce qui s'est passé? J'aime la France. J'aime pas trop son administration. Et il suffit que vous ayez eu un rapport négatif et tout un système peut se mettre en place contre vous. Un on. Que vous comprenez pas. En fait, il y a une secrétaire qui a traité le rapport négatif. Un moment, donc, elle a transmis à une commission pédagogique. Ce jour-là, bizarrement, la personne qui était l'inspecteur, l'inspectrice n'était pas là. Donc, du coup, tout la validation a reposé sur la simple déclaration de cette personne méchante. Redoublement proposé, redoublement imposé. Mon frère, il était mais effondré. Il me dit, c'est pas possible, c'est juste n'importe quoi. Il y a un succès incroyable auprès des élèves. Le principal du collège était content. Enfin, c'était incroyable. La principale du collège est tombée en arrêt maladie. Elle n'a pas pu être là le jour de la délibération. Vous dites, mais c'est pas vrai, mais c'est tout un truc contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a écrit au recteur, le dernier niveau hiérarchique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le recteur avait une procédure où, dans tous les cas, lorsqu'il y avait un seul rapport négatif, c'est peut-être la seule académie, l'académie de Nantes, qui faisait ça, il ne regardait même pas le reste du dossier, il mettait direct à la poubelle, il disait redoublement automatique. Donc en fait, tous les niveaux de la chaîne hiérarchique ont dysfonctionné du début à la fin, et personne n'a voulu se désolidariser de la décision antérieure. Un système contre vous. Mais ça vous rend fou, mes amis. Quand vous êtes comme Joseph et que ça commence à dysfonctionner, parce que vos frères vous ont jeté dans un trou, qui vous ont vendu à des marchands d'esclaves, que vous tombez sur une famille où la femme est folle, qu'elle vous accuse de viol, que vous arrivez en prison et que le seul qui doit vous sauver, il fait pas son job. Vous dites, mais c'est pas vrai. Et là, c'est toute une guerre, c'est tout un système. David dit, je suis plein d'assurance. Alors vous allez me dire, mais comment il fait? Enfin, dites-le moi juste histoire que vous êtes vérifié que vous êtes bien réveillé aujourd'hui. Comment il fait? Comment il fait? J'ai envie d'avoir son secret. Pourquoi David, alors qu'il a des ennemis qui passent, il a des ennemis qui l'assiègent et il a tout un système contre lui, comment il fait pour dire « je suis plein d'assurance » Alors on lit le verset 4, deuxième partie. Regardez le souhait. « Mon souhait, je demande à l'Éternel une chose. » Une chose. Si je lis dans la version Chouraki, il commence le verset en hébreu en disant « un ». Un, premièrement, au-dessus de tout. Un, je questionne Adonai et je lui demande d'habiter dans la maison tous les jours de ma vie. Le mot hébreu, c'est « et de contempler sa douceur ». Et de contempler sa douceur. Sa douceur, sa beauté, sa douceur. Et de chercher à le connaître dans sa demeure. Ouh. Ouh. Je voudrais être assez direct ce matin. Je crois qu'il est important d'être dans la maison de Dieu. Et je suis vraiment favorable à la notion de liberté des chrétiens. Je suis passionné pour la liberté. J'ai vécu, je vous dis, dans une église abusive un jour et je déteste la pression, comme vous. Mais je me suis rendu compte avec les années d'une chose qui est complètement vraie. C'est que si votre souhait, s'il y a une chose que vous devez désirer, c'est d'être dans la maison de Dieu. Le jour où vous perdez ce désir-là, vous êtes comme un danger. Le jour où la maison de Dieu n'est plus votre priorité, vous êtes en danger. On fait un culte le dimanche. On fait des réunions également en semaine, le jeudi, le vendredi. Et je sais que David, dans le psaume 42, il dit « Je me souviens des jours heureux où je courais pour aller à la maison de l'Éternel. » Ça fait combien de temps que tu n'as pas couru pour aller à la maison de l'Éternel? Je réalise le mot « habiter ». David dit « je ne veux pas visiter ». Imaginez, je voudrais visiter le dimanche la maison de l'Éternel. Non, David dit « je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel ». On n'a pas les moyens de vous donner un logement ici, hein, je vous rassure, mais l'idée reste quand même. C'est que David dit « pourquoi j'arrive à résister avec tous les soucis dans ma vie que j'ai ? » Il dit « parce que j'ai un souhait. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel. » Pour si vous êtes marié, le principe du mariage, c'est ça. Lorsque je prends mon baptême, je m'engage avec Dieu et je dis « Seigneur, je veux être fidèle tous les jours de ma vie. » Enfin, si vous êtes passé à Créteil, je vous ai posé cette question. Je dis « Est-ce que tu promets, est-ce que tu t'engages tous les jours de ta vie à faire tout ton possible pour rester fidèle à Dieu ?» Et quelque part, c'est ça. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que imaginez-vous un couple marié qui dit « Alors, toi tu vas habiter à Aix-en-Provence, moi je veux habiter à Lille et on se reverra le dimanche. Et on va faire ça pendant 50 ans. » Ouais, il m'aime très fort lui. Et il y a quand même un souci, vous voyez. On peut pas habiter à distance longtemps. Je sais pas, je vous demande pas de lever la main, mais tous ceux qui ont une relation d'amour à distance, dites-moi comment ça se finit ces trucs-là. Bah ça se finit assez simplement. Soit ça se finit tout court, soit vous finissez par habiter ensemble. Mais on ne peut pas tenir à long terme une relation à distance. Alors vous êtes des génies spirituels. Parce que vous arrivez à être très peu présent dans la maison de Dieu et dire que votre amour pour Dieu il reste stable. Eh bien, bravo. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Au bout d'un moment, lorsque Je suis fatigué. En plus, l'hiver, c'est l'horreur parce qu'il y a toutes les raisons pour pas aller à l'église. Il y a la neige, il y a le froid, il y a les soucis, il y a la grippe. J'ai eu une grippe pendant 9 jours, c'était l'horreur. Enfin bref, vous avez plein de bonnes raisons pour ne pas venir dans la maison de l'Éternel. Et pourtant, c'est là que vous êtes en danger. C'est là que vous êtes en danger. Et pourquoi il dit, pourquoi je veux rester collé dans la maison de Dieu? Pourquoi je veux... Il dit, j'ai un seul souhait, une chose que je désire ardemment, je veux être dans la maison de Dieu. Déjà, il faut y être physiquement. Vous allez me dire, mais pasteur, la maison de Dieu aussi, c'est le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, d'accord. Mais il y a quand même le temple de l'Éternel, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelque chose de plus à être dans la maison de Dieu. Je veux dire, dans la maison qui est le rassemblement des chrétiens. Pour contempler la beauté, contempler sa douceur. Je me rappelle de ce jeudi soir, c'était au mois de janvier, où c'était étonnant d'ailleurs. C'était un jeudi soir convivialité, le dernier jeudi soir de janvier. Il y a eu quelques témoignages qui je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez choisi de venir à l'église ce soir? Puis là, spontanément, ce n'était pas prévu, hein, cette soirée-là. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à rendre témoignage en disant, voilà, moi, je suis venu, j'étais fatigué de mon travail, mais je me suis dit, si je rentre à la maison, je n'arriverai pas à repartir. Donc, je me suis dit, allez, je viens direct à l'église. Et il y a eu plein, tout le monde avait une histoire différente. Mais ils sont venus dans la... Et il y a eu une présence de Dieu ce soir-là. Il y avait une présence de Dieu ce soir-là. Pour une soirée de convivialité, pourtant, théoriquement, c'est pas... Eh bien, si. Dieu était honoré parce que ses enfants avaient fait le déplacement. Et il y avait une présence de Dieu dans la pièce qui était vraiment palpable. Vous pouvez toucher Dieu. Parce que quand tu vas dans la maison, après avoir habité, il y a 3 degrés, vous voyez, il y a 3 degrés. Déjà, il faut habiter parce que sinon, si on n'y est pas, au bout d'un moment, votre relation avec Dieu, elle prend de la distance. Toutes les relations à distance, c'est un risque. Une fois que vous avez pris vos moyens, donc en gros, ma vie spirituelle, ça devrait être ça. 1, je m'impose et je choisis de dire, voilà, je vais faire l'effort d'habiter avec Dieu, d'être présent régulièrement, même quand... Enfin, imaginez-vous un marié qui dit, ok, au fait, depuis une semaine, là, je ne te supporte plus, donc je pars 2 semaines chez ma cousine. Ok, tu fais ça une fois, tu fais ça 2 fois, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, non? Avec Dieu, une fois tu es malade, après tu es fatigué, après... tu es marié ou bien tu es... Vous voyez, on est un peu gamin spirituellement. Comme on est libre, tu dis, Seigneur, je vais faire un petit concubinage avec toi de temps en temps. Dieu mérite mieux que ça, quoi. Pour contempler la beauté de l'Éternel. Une fois que vous avez fait l'effort, après vous allez rentrer, le deuxième degré du désir de connaître Dieu, vous allez commencer à contempler la beauté de l'Éternel. Ce qui sauve David. Et c'est pour ça que je préfère le mot douceur en hébreu. Pourquoi je préfère le mot douceur? Parce que quand j'ai plein d'ennemis en face qui me font tous les coups bas possibles, je finis par être dans un monde méchant, avoir des méchants partout, et j'ai besoin de savoir que Dieu m'aime. Et j'ai besoin de comprendre que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. J'ai besoin, lorsque je suis dans la présence de Dieu, lorsque je fais l'effort de venir à l'église, tout simplement de savoir et de réaliser mon Père qui est dans le ciel. Alléluia, que ton nom soit sanctifié. J'ai un Père dans le ciel, j'ai mon Sauveur à mes côtés, etc. C'est pour ça que David est fort. Je cherche à le connaître dans sa demeure. Un autre mot, c'est je cherche à connaître les recoins du palais, en hébreu. Vous savez que Dieu, même Moïse n'a pas pu le voir de face. Moïse a vu Dieu à l'arrière. Et Dieu a dit à Moïse, attention, tu ne peux pas me voir de face. Nul ne peut me voir de face, si ce n'est quand il est décédé, quand il est là-haut. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a multiples facettes. Et une des choses que vous allez découvrir dans le fait d'être à plusieurs dans un lieu, c'est que quand même on apprend des choses sur Dieu. Ah, je n'ai pas toutes les réunions, pas tout le temps, je ne reçois pas tout le temps une révélation de Dieu, mais quand même, si je suis honnête, où est-ce que j'ai fait des progrès? Où est-ce que tu as fait des progrès dans ta vie spirituelle? Quand as-tu fait des progrès? Comment tu arrives à progresser avec Dieu? Tout seul en faisant un culte personnel? Peut-être. Mais combien d'entre vous font vraiment l'effort de faire le culte personnel pour mieux connaître Dieu? Combien d'entre vous font l'effort de prendre une Bible d'étude et travailler une demi-heure le soir de 22h30 à 23h, alors vous êtes épuisé, fatigué. Et combien ont le courage de dire « Seigneur, je vais apprendre de nouvelles facettes de toi ce soir. » Ah, il y en a quelques-uns, d'accord, quelques champions. Mais la vérité, c'est que souvent, quand je suis dans la maison de Dieu, que la présence de Dieu est là, quand j'ai choisi d'habiter dans sa maison, que je contemple l'Éternel, tout d'un coup, dans une phrase de la prédication, une parole d'un chant, une prière de quelqu'un, je me dis, mais en fait, Dieu est, et je découvre quelque chose de Dieu pour moi. On approche de la fin. Troisième partie, la protection. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 3 degrés dans le combat. On a vu ensuite qu'il y avait 3 degrés dans le souhait. Et là, il y a 3 degrés de protection. Tout d'abord, il nous permet de vivre. Alors, le mot hébreu, c'est dans sa hutte, dans son tabernacle. Ensuite, il me cachera sous l'abri de sa tente. Cachera sous l'abri de sa tente. Et enfin, il m'élèvera sur le rocher. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Alors, dites-moi à quoi ça correspond spirituellement. Le tabernacle, c'était le lieu de la tente de la rencontre. Là où le peuple se rassemblait pour rencontrer Dieu. Et c'était ensuite, dans le temple, ça sera le parvis où tout le monde a accès. Quand je ne vais pas bien, c'est important pour moi d'aller à l'église. Naturellement, j'ai envie de me cacher, mais le plus intelligent, la chose la plus intelligente que je puisse faire, c'est d'aller à l'église. Cachez pas votre malheur, allez-y. Il dit, il me cachera, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Combien de fois, lorsque je suis venu à l'église, que je n'allais pas bien, je suis ressorti, j'étais boosté. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et en fait, en hébreu, c'est il me voilera derrière son voile. Et c'est étonnant parce que le voile, c'était ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Vous voyez, il y a un degré d'intimité avec Dieu qui est plus important. D'abord, il est dans le tabernacle, il est protégé. Il y a comme une bénédiction collective qui te protège. Ensuite, alors que vous êtes dans le temple, vous avez des petits recoins. Ça peut être à votre chaise, ça peut être devant, au moment d'un appel, ça peut être tout simplement alors que vous levez les mains dans un moment d'adoration. Hop, à ce moment-là, vous vous sentez comme à l'abri dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et puis il y a un troisième degré qui est cité là, c'est quand ça va vraiment mal et que je suis en train de me noyer. Je suis en train de me noyer dans ma vie. J'ai un rocher. Et ça, c'est le psalmiste est en train de prophétiser sur l'aspect de Jésus. Parce qu'il est dit, ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ lui-même. Ouh ! Ça veut dire que quand je suis dans l'église, j'ai la consolation des autres dans le tabernacle. Ok. Mais lorsque je lève mes mains et que je rentre en contact avec Dieu, j'ai plus que la consolation des autres. J'ai commencé à avoir une consolation privée en tête à tête avec Dieu. Là, je suis dans la tente. Je suis caché dans la tente. Et si jamais la présence de Dieu n'arrive pas à enlever toutes mes craintes et toutes mes peurs, alors je monte sur un rocher et je me dis, voilà, Seigneur Jésus, je m'appuie sur toi. Tu es mon rocher, tu ne me lâcheras pas. Et c'est pour ça qu'il y a une... Quand la présence de Dieu, vous voyez, il y a 3 degrés, quoi. Simplement la masse, le fait d'être personnel, et puis après le fait d'être complètement appuyé sur Jésus. Allez, on se quitte avec le dernier verset. Voilà, ça donne des forces à David. Ça donne des forces. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de finir l'hiver, là, mais il y a des forces nouvelles. Il dit, dès à présent, je peux lever ma tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Je peux lever ma tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Est-ce que tu as envie de sortir la tête de l'eau? Est-ce que tu as envie de pouvoir regarder les problèmes en face et dire, wow, tu ne me vaincras pas. Tu ne me vaincras pas. Je pense à ce texte de Matthieu 5. C'est possible de marquer juste Matthieu 5, verset 39. Matthieu 5, 39. C'est Jésus qui parle à propos des ennemis. Et il y a une phrase. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors, pour certains, vous m'avez entendu déjà parler de ce texte. Mais il est génial, ce texte. Et pour moi, quand David dit, lorsque je suis dans ta présence, j'arrive à lever ma tête au-dessus de mes ennemis. Sortez le cou, là. Regardez, voilà. Vous levez la tête. Vous êtes tellement enfoncé dans vos problèmes du lundi au samedi que David dit, je relève ma tête. Alors, regardez ce que dit Jésus. Il dit, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et je vous avais donné cette explication. C'est que si naturellement ce matin, vous voulez me donner une gifle, vous tous qui êtes droitiers, combien il y a de droitiers ce matin ici? Ouais, d'accord. Vous allez naturellement me donner une gifle en face, vous allez me la donner sur la joue gauche. Or, ce texte dit, si ton ennemi te frappe sous la joue droite, ça veut dire que ce n'est pas une gifle que vous allez me donner, mais c'est plutôt un revers de main. Et c'est-à-dire, en gros, si ton ennemi vient vers toi et qui te frappe sur la joue droite, c'est en disant, t'es rien, t'es qu'un tas de boue, tu ne représentes rien dans ma vie. Eh bien, tu te relèves en face, tu dis, ma tête, elle est invincible. Elle est invincible. J'ai une telle présence de Dieu. Je suis assis sur un rocher, c'est un ressort. Jésus, c'est mon ressort. Tu veux me frapper pour me faire tomber dans l'eau? Non, je me relève. Je me relève. Et cette fois-ci, la première fois, tu avais essayé de m'imposer tes règles. Mais ça me fait tellement rien que, alors que je te regarde droit dans les yeux, je peux te dire, donne-moi une vraie gifle. Parce que de toute façon, tu n'as aucun pouvoir qui ne t'est donné sur la terre. Le seul pouvoir de frapper, c'est moi qui te l'offre, si tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que je suis indestructible. Parce que je suis sur un rocher qui s'appelle Christ. Parce que je suis dans une tente où je suis en communion avec Dieu. Parce que je suis dans un tabernacle où il y a des frères et des sœurs qui sont sur leurs genoux et qui prient pour moi. Alors quand bien même au travail, tu voudrais du mal, j'ai une armée derrière moi qui est en train de prier. Lorsque tu viens vers moi et que tu veux commencer à dire ton mariage ne va pas résister, attends, moi j'ai une communion avec Dieu et mon mariage tiendra bon. Mes enfants, tu me les ramènes avec des notes comme ça, avec des problèmes à l'école, avec des comportements. Ok. Ah, tu crois que je n'ai pas d'endroit pour aller me réfugier? Je vais me mettre sur un rocher qui est Jésus. Et je vais commencer à proclamer que Dieu est capable de faire quelque chose dans cette cas. Ouais, c'est ça qui fait que David, il dit, l'Éternel est ma lumière. Mon salut, de qui aurais-je crainte? Que peut me faire un homme? On a presque fini le verset 6, hein, faut qu'on se quitte, mais il dit, j'offrirai dans ton tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Vous avez déjà fait des sacrifices avec des cris de joie, vous? Oh, je ne suis pas sûr, hein. Parce que si c'est vraiment un sacrifice. C'est rare d'avoir un cri de joie. Et là encore, on voit que c'est que contre-intuitif. Quand il dit je lève ma tête en face de mes ennemis, d'habitude, quand il y a les ennemis, on baisse la tête. Mais comme il est fort avec Dieu, il lève la tête. Là où d'habitude, quand tu fais des sacrifices, ça te coûte. Tu mets tes tripes, tu mets ton argent, tu mets ton temps. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu dis que c'est avec des cris de joie. Ça, c'est une caractéristique d'un chrétien qui est en vraie communion avec Dieu. Un chrétien qui est en vraie communion avec Dieu, il est généreux dans son argent, il est généreux dans son temps, il est généreux. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec joie. Il y a des moments où dans le livre de Malaquie, je vais quand même vous le lire parce que ça fait partie de la Bible. Je sais que c'est des choses que moi, il y a tellement d'églises abusives qui exagèrent de ces textes, mais il y a quand même une pensée dans ce texte. Est-ce que c'est possible d'afficher juste Malaquie au chapitre 3?
au verset 6. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Et je n'ai pas changé. Des fois, vous dites, mais Dieu, je ne le ressens plus, je ne le vois plus dans ma vie. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Enfin, en gros, Dieu dit, c'est moi qui vous ai sauvés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, mais comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes, vos dîmes, vous êtes sous le coup de la malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans la totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble avec surabondance de ma bénédiction. Enfin, c'est un des aspects, mais pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi des fois on se dit « Waouh, je ne vais pas finir le mois, je ne vais rien donner à Dieu ?» Parce que vous êtes un peu dans le stress, dans l'angoisse, dans la crainte. Puis vous avez plus confiance dans vos porte-monnaie que en Dieu. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'étais étudiant. Je me dis, mais j'ai plus confiance dans mon porte-monnaie qu'en Dieu, en vrai. On croit le verset que Dieu donne, mais on se dit, oui, mais... Et c'est toute une mentalité, en fait. Du coup, quand vous n'allez pas bien, quand vous avez votre ennemi en face, vous prenez des coups, poum, 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 et vous enfoncez la tête. Quand vous n'allez pas bien, quand il y a un sacrifice à faire, c'est... Tiens, Seigneur, ça fait mal au cœur quand même. Parce que vous n'êtes pas bien. Et vous faites culpabiliser Dieu lorsque vous lui donnez 100 euros. Seigneur, t'as intérêt à bien les utiliser parce que moi, sinon, j'aurais acheté une nouvelle machine Senseo. D'accord. Il y a... Le psalmiste David, un jour, il a failli se faire avoir. Et David, un jour, on lui a proposé un champ pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel gratos. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est pour offrir pour Dieu ? Tu veux offrir un sacrifice à l'Éternel ? Il n'y a pas de souci, le champ, c'était quelqu'un du pays, hein. Je te le donne. » Et David a dit « Je ne peux pas accepter ça, il faut que je le paye. » Et il dit une phrase qui est incroyable, c'est dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24, il dit « Je ne vais pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » Attends, je ne suis pas un gamin spirituel. Quand on est gamin, on peut donner des bonbons gratuits. Mais lorsqu'on est devenu mature, j'offre à l'Éternel quelque chose qui me coûte. Et David se dit, mais c'est une joie pour moi d'aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Je parle aussi de votre temps. Moi, c'est pareil des fois quand je suis à la fin de ma grippe et que je dois travailler plus. Tout me coûte. Oh, Yvan, reviens dans la présence de Dieu, reviens habiter dans la maison d'Éternel, reviens contempler sa gloire, recommence à visiter les aspects de Dieu. Ah, j'ai quelque chose pour vous tous, pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de temps, ben vous avez une voix. Et il est dit, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Il n'y a rien de plus intime qu'une voix. Si je vous écoute parler, vous avez un timbre de voix unique. Unique. On peut vous reconnaître qu'à votre voix. Dieu connaît votre voix, mes amis. Et vous me dites, mais pasteur, que je sois là le dimanche ou pas, il n'y a personne qui le reconnaît. Aussi. 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 Il y a quelqu'un dans le ciel qui a créé l'oreille. Et ce matin-là, il écoute à Créteil, comme il a écouté ce qui s'est passé avant en Chine, ce qui va se passer après aux États-Unis. Il écoute ce qui se passe et ce qui monte de ce lieu. Et il dit, ah, j'entends beaucoup de voix, mais ma fille, elle n'est pas là. J'entends beaucoup de voix, mais la voix grave de mon fils, elle n'est pas là ce matin. Alors le culte peut être bon, mais c'est tellement mieux quand Dieu entend ta voix. Mais je te dis, même pas fort, même pas juste quand tu es en train de chanter à l'Éternel. Je demande aux musiciens, on va se donner la possibilité de louer, d'accord ? On va se donner la possibilité de louer, mais... Ah, me dites pas, oui, mais pasteur, je peux faire ça que quand je suis bien spirituellement. Au contraire. Au contraire. Ce matin, c'est le moment d'être dans la présence de Dieu. Remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur mon Dieu, comme le psalmiste. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel soutient ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont eux, mes oppresseurs, mes ennemis qui perdent pied, qui tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, tout un système, je suis plein d'assurance. Et je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté et chercher à le connaître dans sa demeure.
Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie.